Actualité. Bonjour et soyez les bienvenus à Les Par Actualité, émission du 31 mai 2018, dernière édition de la saison. Et en manchette aujourd'hui, la Semaine québécoise des personnes handicapées de retour, le prix Michael J. Fox remis à France Geoffroy, Pygmalion érige sa première maison à Amos, pourquoi la sclérose en plaques attaque plus les femmes que les hommes. Et en entrevue, je reçois Diane de Bonville, directrice des communications de la division du Québec Société de l'arthrite, qui nous parlera de la marche de l'arthrite qui a lieu très bientôt, le 2 juin à Montréal. Et aussi Pierre Brisebois, président fondateur de la Fondation Pierre Brisebois, qui nous parlera du défi DMLA La Salle qui aura lieu le dimanche 10 juin. La Semaine québécoise des personnes handicapées de retour pour une 22e édition du 1er au 7 juin 2018. La population québécoise est invitée à souligner cette semaine et à contribuer activement à bâtir une société plus inclusive. En 2011, le groupe Défi Accessibilité a défini l'accessibilité universelle comme étant le caractère d'un produit, procédé, service, information ou environnement qui, dans un but d'équité et dans une approche inclusive, permet à toute personne de réaliser des activités de façon autonome et d'obtenir des résultats équivalents. Plus concrètement, cela signifie l'accès partout pour tous. Mais comment faire en sorte que l'accessibilité universelle soit une réalité? Tout d'abord, il faut connaître et comprendre ce que signifie l'accessibilité universelle, quels sont ses impacts et comment y contribuer. Toute organisation œuvrant dans le domaine du sport, du loisir et de la culture, dans le milieu associatif ou municipal, peut devenir porteuse de l'accessibilité universelle et contribuer à favoriser la participation sociale des personnes ayant une limitation fonctionnelle. Pour vous aider à embarquer dans le mouvement, le projet Choisir de gagner, une initiative du défi sportif Altergo soutenue par Québec en forme, permet à Formation Altergo de proposer un webinaire d'introduction à l'accessibilité universelle. Il sera présenté par Sarah Limoges, formatrice pour Formation Altergo, et Elsa Lavigne, directrice de l'accessibilité universelle en loisirs chez Altergo. Ce webinaire, qui aura lieu le 5 juin, de midi à 13 h, présentera les principes de l'accessibilité universelle, ses quatre axes ainsi que différentes stratégies et outils permettant aux organisations d'améliorer leurs interventions en faveur de l'accessibilité universelle. La danseuse tétraplégique France Geoffroy recevra samedi le prix Michael J. Fox accompagné d'une bourse de 25 000 $ afin de saluer son travail pour la danse intégrée. C'est dans la presse d'aujourd'hui. L'an dernier, le comédien Michael J. Fox avait reçu avec émotion le prix de la réalisation artistique à Ottawa lors d'une remise de prix du gouverneur général. Il avait remis la bourse de 25 000 $ au Conseil des arts du Canada, disant que l'organisme en ferait un meilleur usage que lui. « Cela vient de son désir de soutenir les arts », explique Juliane Ricard du Conseil des arts. Un prix unique a ainsi été créé et il sera remis samedi à France Geoffroy, une des premières artistes handicapées qui ont pratiqué la danse intégrée au Québec. « Je trouve ça surréaliste. Peut-être qu'un jour, je vais serrer la main de Michael J. Fox », a-t-elle dit. Tout comme l'acteur de Back to the Future, elle est une ardente militante pour les droits des personnes atteintes d'une maladie ou d'un handicap. À l'âge de 17 ans, après un accident survenu à la suite d'un plongeon dans un lac, France Geoffroy est devenue tétraplégique. Malgré tout, elle a décidé de poursuivre son rêve de danser professionnellement. Elle a fondé sa compagnie Corpuscule Danse. Elle a dansé dans une dizaine de pièces et elle en a chorégraphié quelques-unes et elle enseigne également la danse intégrée. D'ailleurs, on la recevait cette semaine au Par Actualité. Ça revient aux grandes questions fondamentales. Pourquoi une personne en situation de handicap ne pourrait-elle pas être un danseur, un artiste? Et moi, c'est sûr qu'au début, je me suis senti imposteur. Mais maintenant, je vois que c'est bien ancré dans les mœurs. La danseuse et professeure de 44 ans note que la diversité est dans l'air du temps. Elle cite en exemple les grands ballets canadiens et leur centre en art-thérapie. « Je sens aussi que les conseils des arts et les écoles s'ajustent et comprennent le bien fondé de ces pratiques inclusives. » En mai 2019, à l'Agora de la danse, elle présentera un des volets du projet Quadraptique qui réunit des danseurs avec et sans handicap. Elle croit que ce sera son dernier spectacle sur scène. Entre-temps, avec la bourse, elle espère créer une trilogie vidéo-danse dans laquelle elle performera avec d'autres interprètes de sa compagnie. Même si la danseuse prendra bientôt sa retraite, la militante continuera de concevoir des projets pour valoriser la danse intégrée au Canada. La marche de l'arthrite aura lieu le 2 juin à Montréal et j'ai le plaisir d'en parler avec Diane de Bonville, directrice des communications de la division du Québec Société de l'arthrite. Bonjour, Madame de Bonville.
Bonjour, Madame Denis.
Alors, la Société de l'arthrite du Québec existe depuis combien de temps?
Oh, 70 ans même et plus un peu.
Ah oui?
71 ans, oui. Et alors, c'est un organisme national.
Oui. Et quels sont les services que vous proposez?
Alors, la Société de l'arthrite veut soulager la souffrance des gens qui sont perclus d'arthrite, puis on investit dans la recherche, la défense de la cause, puis les solutions pour améliorer leur qualité de vie. Mais en fait, au Québec, plus particulièrement, on a un programme de soutien qui s'appelle Aide Entraide, qui est offert dans quatre villes, Montréal, Québec, Trois-Rivières et Sherbrooke. C'est du soutien puis de l'information quand on sort du bureau du rhumatologue. On a aussi la rencontre sur l'arthrite, qui est le 10 novembre au Palais des congrès à Montréal, avec 30 conférences, des ateliers, salon des exposants, web diffusion, des événements satellites. Et où on a bien sûr notre site arthrite.ca, qui a beaucoup d'informations sur la maladie, des traitements, des cours gratuits en ligne, même un outil de vérification de symptômes et notre ligne 1-800, bien sûr.
Vous parlez de symptômes. Comment on reconnaît les premiers signes de l'arthrite?
Bien, en fait, l'arthrite, on va se rendre compte qu'on a de l'arthrite avec, premièrement, la douleur, de l'enflure dans nos articulations, puis de la raideur aussi. Souvent, il y a une raideur matinale. Le matin, là, quand on se lève, ça peut prendre au moins une heure à se déplier, comme on dit. Puis ça s'aggrave là, quand on ne bouge pas. Puis aussitôt qu'on bouge, ça se place. Il y a de la diminution dans l'aptitude des mouvements, de la fatigue aussi, de la fièvre, de la perte de poids. Et ça touche pas seulement les articulations. Des fois, ça va toucher le cœur, les yeux, des organes, puis même parfois la peau.
Et qui sont les personnes susceptibles d'être touchées par l'arthrite?
Bien, en fait, ça touche pas mal tout le monde, des hommes, des femmes, des petites filles, des garçons, tous les âges, toutes les origines. En fait, on parle d'un Canadien sur cinq, puis au Québec, c'est 1,3 million de personnes, c'est beaucoup.
Oui, les risques sont quand même assez élevés. Et vous parlez d'enfants, qu'est-ce que l'arthrite juvénile? Et pourquoi les enfants sont atteints d'arthrite?
Bien, en fait, on ne sait pas pourquoi les enfants. On parle de 3 enfants sur 1 000 au Québec. Là, on parle de 4 500 enfants, ce qui fait que c'est une des maladies chroniques infantiles une des plus courantes. Pourquoi eux, on ne sait pas. En fait, il n'y a même pas on ne peut pas dire que c'est de la génétique non plus. C'est pas causé par une maladie non plus. C'est pas le régime alimentaire. Donc, on ne connaît pas l'origine. Mais ce qui va arriver pour les enfants, c'est que c'est la même chose que les adultes. Ça va être de la douleur, de la raideur, de l'inflammation, de la perte de mobilité. Puis la difficulté avec les enfants, c'est que c'est pas facile à détecter, parce que les enfants, ils se plaignent pas toujours. Ils disent pas toujours où ils ont mal. Il faut deviner. Des fois, ça peut arriver aussi jeune qu'à l'âge de 1 an ou 2 ans. Oui. Donc, les enfants parlent pas toujours. Fait que c'est les parents, des fois, qui vont détecter l'enfant qui a une difficulté à marcher ou qui va avoir une articulation qui est enflée, qui a une perte de mobilité soudaine avec leur enfant qui est pas habituel. C'est comme ça, parfois, que ça va être détecté.
Et à quoi sert la marche de l'arthrite du 2 juin?
Bien, la marche de l'arthrite, c'est vraiment pour récolter des fonds pour la recherche, parce qu'on veut trouver, on aimerait bien trouver un traitement définitif, puis aussi allouer à nos programmes, comme le programme Aide Entraide dont je parlais, et nos services.
Tout le monde est invité?
Tout le monde est invité. On a 4 lieux de marche au Québec, Montréal, Québec, Trois-Rivières et Sherbrooke. Les gens peuvent s'inscrire sur le site marchedelarthrite.ca et les gens peuvent s'inscrire aussi le matin même sur place.
Et ça se passe à Montréal? Vous commencez où la marche?
À Montréal, on va être à Verdun, à la sortie du métro de l'église. Il y a le parc sur le bord du fleuve, le parc Arthur-Terrien. On va être là avec une belle grande tente et on vous attend.
À partir de la matinée?
Dans la matinée, à partir de 9 heures.
Parfait. Pour avoir aussi toutes les informations qui concernent les autres marches, on peut aller sur le site.
Exactement. On a tous les lieux sur le site marchedelarthrite.ca. Tous les lieux sont indiqués et sur chaque lieu, on a les informations, les détails complets de chaque activité.
Et je lisais une histoire à propos d'une petite fille qui s'appelle Olivia, 6 ans, et qui, elle, est aux prises avec cette maladie qu'est l'arthrite. Elle prend des médicaments, des injections.
Oui.
Et on parlait, elle prend des médicaments de la famille des antirhumatismaux. Alors, je me demandais, c'était quoi la différence entre l'arthrite et le rhumatisme? Est-ce qu'il y en a une?
Non, en fait, le rhumatisme, ça englobe vraiment toutes les maladies arthritiques. C'est un terme général.
Ah oui, d'accord.
Quand on parle d'arthrite, on a deux types d'arthrite. On a l'arthrose, qui est vraiment l'usure du cartilage. C'est plus provoqué par la vieillesse, des exercices excessifs ou le surpoids. Mais dans le cas des enfants ou des gens, quand on parle d'arthrite inflammatoire, ça, c'est vraiment notre système immunitaire qui se dérègle. Mm-hmm. Et là, on a vraiment besoin de traitement et de soins, parce que sinon, si on ne s'occupe pas de nos articulations qui sont en inflammation, il va y avoir nos articulations comme telles vont s'abîmer, vont s'user. Donc, ça ne revient pas. Ça
mais on ne meurt pas d'arthrite.
On ne meurt pas. Mais l'arthrite peut atteindre les organes aussi. Ça fait travailler beaucoup le cœur, parce que votre corps est en inflammation constante.
Ah oui.
Donc, le cœur...
Indirectement.
Indirectement, oui.
Alors, Diane de Bonville, directrice des communications de la Division du Québec Société de l'arthrite, merci d'avoir pris quelques minutes de votre temps pour nous inviter à cette marche de l'arthrite du 2 juin qui aura lieu, donc, c'est bientôt ça, le 2 juin?
Oui, dans 2 jours.
Oui, c'est samedi?
Samedi matin, oui.
À un moment donné.
Pour du beau temps.
Oui, on vous le souhaite, mais j'ai entendu dire et même que j'ai lu sur le site d'Environnement Canada qu'il fera beau samedi, puis pas trop chaud. Alors, pour marcher, je pense que ce sera l'idéal.
Parfait, parfait. On a aussi une course à Montréal pour ceux qui veulent courir.
Ah oui, on peut marcher puis on peut courir.
On peut courir et marcher, oui.
Parfait. Merci, Mme de Bonneville.
Merci beaucoup, Mme Denis. Au revoir.
Au revoir. Nouvelle tirée de l'écoabitibien.ca, Pygmalion érige sa première maison à Montréal, à Amos, dis-je bien. Les résidences Pygmalion ont donné le coup d'envoi à la construction de la Maison des Petits Bonheurs qui accueillera ses premières résidentes en janvier prochain à Amos. Les travaux sont effectués par l'entrepreneur local MVF La Rochelle. L'édifice est érigé sur la rue du Centenaire dans le nouveau domaine Bellevue. Il sera livré en septembre, puis l'organisme le préparera à recevoir ses locataires pour le début de l'année 2019. La maison hébergera 3 femmes ayant une déficience intellectuelle associée à d'autres problèmes. Une ressource pour les accompagner y occupera un logement. C'est un projet de 645 000 $, ce qui inclut toutes les dépenses jusqu'à l'achat du terrain. La maison sera louée par ses occupantes. On ne cadrait dans aucun programme gouvernemental. Alors, il a fallu compter sur la générosité du milieu pour nous aider à financer le projet. Il nous manque encore environ 50 000 $ pour compléter le financement, a indiqué le président André Gaulin, qui a souligné la qualité de l'accueil reçu auprès de la ville d'Amos et de la communauté. La ville d'Amos soutient le projet avec une aide financière de 15 000 $, un crédit de taxe sur 5 ans et raccordera gracieusement la Maison des Petits Bonheurs à ses services municipaux. Et dans la nouvelle.net, quelques 130 personnes des utilisateurs de triporteurs, de quadriporteurs et de fauteuils roulants motorisés ont participé mardi après-midi à une activité d'information d'envergure au Colisée des Jardins de Victoriaville. Une activité pour les informer, les éduquer, les sensibiliser au bon comportement et aux règles de circulation. Les participants ont pu échanger avec des policiers de la Sûreté du Québec, des pompiers du service de la sécurité publique, des intervenants de la Société d'assurance automobile du Québec, et des ergothérapeutes du CIU3S de la Mauricie du Centre du Québec. Grâce à l'aménagement d'un parcours urbain, les utilisateurs d'aide à la mobilité motorisée ont pu tester leurs habiletés et leurs connaissances sur ce circuit avec figurants qui présentaient notamment un passage piétonnier et des feux de circulation. Cette activité, la troisième du genre, a permis la présentation d'une vidéo d'un peu plus de 5 minutes mettant en scène 3 utilisateurs d'AMM circulant à Victoriaville. Un document faisant état de situations touchant les règles de circulation, de sécurité et de courtoisie. L'obligation de circuler à la file pour les groupes de 2 et plus, l'utilisation du feu piétonnier aux intersections là où il existe, l'obligation de céder le passage aux traverses de piétons font notamment partie de la réglementation en vigueur. Les infractions peuvent mener à l'imposition d'amendes. Et je joins maintenant, je peux dire un collègue, Pierre Brisebois, président fondateur de la Fondation Pierre Brisebois, à l'origine du défi DMLA, atteint de DMLA depuis qu'il a 46 ans, directeur de la radio CKVL qui produit les émissions Tradosphère et Coco Jazz que l'on diffuse sur les ondes de Canal M. Bonjour, M. Brisebois.
Bien, bonjour.
Alors, merci d'être avec nous.
Ça fait plaisir, Mme Denis.
On commence avec la base. Qu'est-ce que la DMLA?
La DMLA, ça veut dire dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc, c'est une maladie dégénérative au niveau de l'œil. Et puis, la macula, je vous dirais, c'est la vision, le fait qu'on puisse voir, c'est notre vision centrale. C'est la macula, tout simplement. Alors, c'est ça que tranquillement, pas vite, se désagrège, tout simplement, avec l'âge.
Et vous, vous en êtes atteint depuis l'âge de 46 ans, c'est relativement jeune?
Oui, absolument. Je fais partie des exceptions. Ouais. Normalement, c'est vraiment majoritairement les aînés. Ouais. 70 ans et plus ou moins. À 99 % de ceux qui sont atteints ont 70 ans et plus. Majoritairement les femmes, c'est assez impressionnant. Et ça touche plus les femmes que les hommes. Alors moi, je l'ai eu à 46 ans par me rendant à l'hôpital tout simplement suite à un événement. Mm-hmm. On m'a diagnostiqué la DMLA, mais je n'avais aucune idée que j'avais cette maladie-là. Et moi, je l'ai au niveau héréditaire, c'est-à-dire que ma grand-mère est décédée jeune, je ne l'ai pas connue, mais elle était aveugle. Les deux sœurs de mon père aussi. Sont décédés jeunes que j'ai pas connus. Et mon père, ben, malheureusement, est décédé jeune aussi. C'est une famille avec un problème de cœur au niveau génétique. Alors, ce qui fait que j'ai hérité de tout ce bagage-là. Alors, j'ai été atteint à 46 ans. Et puis, voilà.
Et vous êtes père de 4 filles, donc vous êtes bien conscient qu'il y a un risque que vos filles portent le gène.
Absolument. Et c'est ce qui m'a motivé d'abord en premier. Quand on m'a diagnostiqué, j'ai pas tellement pris la maladie au sérieux parce qu'on m'a dit que c'est une maladie de vieux. J'avais 46 ans, donc je me suis dit, une maladie de vieux, OK. Moi, je ne suis pas vieux.
Mais non.
On m'a dit, inquiète-toi pas avec ça. Alors, je ne me suis pas inquiété avec ça, effectivement, mais 2 ans après, malheureusement, je me suis gratté un œil, j'ai fermé un œil, et avec mon œil gauche, ma vision, je me suis aperçu que tout était distorsionné, tout était tout croche.
Et quel genre de vision vous avez aujourd'hui?
Ben, aujourd'hui, j'ai toujours la vision gauche qui est très atrophiée. Alors, si je regarde quelqu'un qui est complètement déformé, je ne suis pas en mesure de pouvoir lire, mais mon œil droit... j'ai la dégénérescence maculaire aussi au niveau de l'œil droit, mais c'est plus le champ périphérique qui est endommagé. Alors, je suis encore autonome, ça me permet encore de pouvoir travailler, continuer à faire ce que je fais. C'est sûr, j'ai besoin de plus d'assistance, un moniteur plus grand, exemple, au niveau du travail, mais je peux quand même être autonome. C'est le soir qui est le problème. Le soir, j'ai la difficulté à voir, étant donné que mon champ périphérique est endommagé au niveau de l'œil droit.
Mm-hmm. Et en quoi consiste le défi des MLA qui s'en vient, donc dimanche 10 juin?
10 juin, oui, c'est ça. Moi, j'ai joint l'utile à l'agréable, 5 ans. Alors, j'étais un marathonien. J'ai dit, mais pourquoi pas? Il faut que je fasse quelque chose. J'ai 4 filles. Ça touche plus les femmes que les hommes. Je peux pas se poser un nez qui vont bouger. Puis, c'est une maladie que personne ne connaît, mais vraiment personne ne connaît. Du moins, de 5 ans, on la connaissait moins encore. Et donc, j'ai décidé de joindre l'utile à l'agréable et de lancer une course. C'était populaire, le mot défi. Alors, j'ai joint ça à DMLA. Et on a fait une course. J'étais tout seul, honnêtement. J'ai fait le marathon de Montréal pour ma cause, avec d'autres coureurs, mais pour ma cause tout seul. Et l'année d'après, j'ai écrit à tous les arrondissements de Montréal, et l'arrondissement de la salle était favorable, ce qui fait qu'on a lancé le premier défi DMLA avec les moyens du bord. On était 200, on est arrivé en tour. On n'a pas baissé les bras. L'année d'après, on a pu aller chercher 500 personnes. On a remis 9 000 $. L'autre année d'après, 17 000 $. On a remis 33 000 $ à date. Alors, le défi DMLA, c'est une course et une marche pour, de un, sensibiliser les gens à la maladie, savoir c'est quoi la maladie, c'est quoi les symptômes et qui ça touche. Et puis, après ça, sensibiliser les gens au sort des aînés qui sont atteints de cette maladie-là. Beaucoup d'aînés malheureusement se retrouvent seuls aujourd'hui. Puis c'est eux, là, vous savez, tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est en grande partie grâce aux aînés.
Oui, c'est vrai.
Et malheureusement, on les laisse, on les oublie, on les néglige. Alors là, il fallait que je fasse quelque chose. Donc, le défi des mêlés a été lancé comme ça. Et,
c'est la combientième édition cette année?
C'est le cinquième. C'est la quatrième à la salle, mais c'est la cinquième totale, parce que considérant que la première année, j'étais seul.
Oui.
Là, c'est vraiment le cinquième anniversaire. Donc,
allez-vous faire quelque chose de spécial pour souligner le cinquième anniversaire de...
On a une médaille qui est plus grosse, tout simplement.
Ah oui?
Et puis, on a une présidente d'honneur qui est Nathalie Chartrand de l'Association sportive pour aveugles du Québec. Mais on a un gros gâteau là, qu'il va y avoir à la fin. Mais sinon, rien de plus particulier, parce que l'idée en bout de ligne, ce qu'on veut, c'est sensibiliser les gens à la maladie en
ouais.
premier.
Vous attendez puis, combien de personnes?
Ben là, on n'est pas loin de 500 inscrits, donc on devrait être en entour de 600. Là. C'est un peu moins que l'année passée. Il y a encore des possibilités de s'inscrire, mais parce qu'on sent qu'il y a une petite baisse au niveau de la course.
Ouais.
Y en a qui courent, la plupart vont courir pour la cause, mais il y en a beaucoup qui courent pour courir, et puis y a comme on sent qu'une baisse. Mais bref, je suis très content de ce que j'ai à date. C'est sûr, je veux mieux, on veut toujours plus, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les fonds ramassés, cette année, on ne remet pas pour la recherche, on a fait quelque chose de différent, on s'est dit, comment qu'on peut aider, vous savez, ben, ce que je dois vous dire d'abord, c'est que, vous savez, 33 000 $ qu'on a remis, on est bien content pour la recherche, puis on continue, on croit énormément à la recherche.
Ouais.
Sauf que c'est une goutte dans l'océan.
Dans un océan, oui.
Voilà. Alors, ce qu'on s'est dit cette année, on s'est dit, pourquoi qu'on n'aide pas les aînés qui, malheureusement, n'ont pas accès à des lunettes gratuites, à des choses comme ça? Alors, on l'offre à tous les aînés ou toute personne qui a une DMLA ou une maladie de l'œil qui rentre dans les critères là, de sélection, on leur offre une paire de lunettes de soleil gratuitement pour se protéger les yeux. Mmh. Alors, ce sont des lunettes qui sont faites, conçues pour être mises par-dessus d'autres lunettes, ce qu'on voit régulièrement, ça fait des grosses lunettes. Là.
Oui.
Mais c'est quand même assez esthétique, mais c'est surtout que ça va protéger. Alors, tous les aînés, on a lancé cette campagne-là, tous les aînés qui ont un problème de vision ou autres personnes, ben, ils vont sur le site Internet ou nous appellent et on remet une paire de lunettes gratuitement.
Donc, excellente idée.
Oui, ben ça va moins protéger, vous savez, parce qu'en vieillissant, le peu de vision qui nous reste, lorsqu'on a atteint des MLA pour avoir notre autonomie, mais le peu de vision qui nous reste, on doit la protéger.
Et
les rayons UV, les gens ne le réalisent pas, et je le répète, je profite de la tribune que vous m'offrez pour le rappeler, que les rayons UV, c'est une des premières causes majeures de la DMLA. Parce que les gens ne se protègent pas des yeux. On voit de plus en plus des gens qui ont une historique d'avoir travaillé toute leur vie à l'extérieur, de jeunes retraités, qui d'un coup la DMLA sort et le facteur de risque et qu'on peut identifier le généralisme, mais c'est vraiment au niveau du soleil.
Mmh, on l'aime beaucoup le soleil, mais il peut être dangereux. Il faut
oui,
se protéger, non pas seulement avec de la crème solaire, mais aussi des bonnes lunettes
lunettes,
soleil.
Oui.
On peut courir les yeux bandés aussi?
Oui, ben oui, parce qu'il fallait, vous savez, Pierre Brisebois, personne ne me connaît, puis la DMLA, c'est une cause encore que le monde ne comprenne pas, puis souvent, ça touche plus les femmes, donc cette combinaison-là, DMLA et les femmes, on dirait que c'est pas, je frappe beaucoup pour que ça soit, que ça bouge, mais on sent que c'est pas winner dans le sens, là, puis c'est pas un propos sexiste que je vous dis, c'est un fait, surtout que ça touche les aînés, puis on dirait majoritairement les femmes, oh, les gens en parlent pas, ont peur d'en parler. Donc c'est ça, donc je me suis perdu votre question parce que j'étais parti dans le...
Oui, mais je disais que les gens pouvaient courir les yeux bandés.
Oui, alors c'est ça, donc on a lancé le défi pour attirer les gens davantage, pour recréer le super ultra défi des MLA, pardon, qu'il s'agit de courir un 5, un 10 ou un 15 kilomètres, les yeux bandés avec un accompagnateur.
Ah, bien j'espère qu'il va y avoir du monde pour aussi aller encourager ceux qui vont participer à cette...
Oui, on invite tout le monde, oui, c'est sûr,
oui.
C'est à la salle, le parcours est très beau, c'est un parcours sur le bord du fleuve.
Ah oui, c'est de toute beauté.
Et puis, c'est Bishop Power devant la salle de départ.
Rendez-vous à quelle heure?
Le premier départ, c'est 8h30, les 15 et 30 kilomètres.
Le 10 juin, donc,
10 juin.
Pierre Brisebois, président fondateur de la Fondation Pierre Brisebois.
Oui.
Et concepteur à l'origine du défi DMLA.
Oui.
Merci beaucoup pour cette entrevue.
Ça me fait plaisir. Les gens peuvent avoir l'information au www.defidmla.com. Là.
Bravo, merci.
Merci à vous, au revoir.
Bonne chance. La sclérose en plaques, maladie à laquelle une journée mondiale est consacrée mercredi, touche surtout les femmes et cette tendance ne fait que s'accentuer pour des raisons encore inconnues, mais qui pourraient être liées au mode de vie. Aujourd'hui, on compte 3 femmes atteintes pour un homme contre 2 femmes pour un homme dans les années 50-60. C'est une vraie révolution épidémiologique, explique à l'Agence France-Presse le neurologue Thibault Moreau de la Fondation française ARCEPT, aide à la recherche sur la sclérose en plaques. La sclérose en plaques est une maladie auto-immune du système nerveux central, cerveau et moelle épinière. Elle provoque un dérèglement du système immunitaire qui s'attaque à la myéline, la gaine protectrice des fibres nerveuses. On estime à plus de 2 millions le nombre de malades dans le monde. Selon les chercheurs, il s'agit d'une maladie multifactorielle combinant des facteurs génétiques et environnementaux. Ce dernier point pourrait expliquer pourquoi de plus en plus de femmes sont concernées. Cela pourrait être lié au changement des habitudes de vie, selon le professeur Moreau. Cette piste a été explorée dans une étude publiée en 2012 par la revue américaine Neurology. Elle portait sur l'augmentation du nombre de scléroses en plaques en crête entre 1980 et 2008. En 2008, on comptait deux fois plus de femmes malades que d'hommes, alors que leur nombre était équivalent en 1980. L'étude montrait que l'augmentation concernait surtout des femmes vivant en ville. Tel que promis, voici donc l'horaire et les lieux des performances 3D Diversité, un projet de médiation culturelle de Corpuscule Danse en collaboration avec les chorégraphes Roger Sina et Zab Mabungu. 7 juin, place Émilie-Gamelin à midi. 14 juin, à l'UQAM, midi 30, c'est dans le hall du registrariat bâtiment DS. 16 heures, square Cabot, le 11 juillet. 14 juillet, à la place du marché Frontenac, à la sortie du métro Frontenac, à 11h30. Et 16 juillet, Parc des Faubourgs, rue Dorion, à 19h30. Et je vous rappelle que France Geoffroy, qui est en tête du corpuscule danse, vient de recevoir le prix Michael J. Fox. Elle le recevra samedi, plus précisément. Et Ami Télé prépare une nouvelle série d'émissions qui aura pour titre « Ça ne se demande pas », série documentaire de 8 épisodes de 30 minutes. Et une de ces 8 émissions sera consacrée aux personnes ayant un handicap ou déficit visuel. Nous cherchons des gens qui aiment s'exprimer sur différents sujets les concernant et qui ont aussi une petite touche d'humour pour en parler. De Montréal ou de la grande région de Montréal idéalement, car les tournages auront lieu dans un studio à Montréal en octobre et novembre. Les personnes intéressées à participer pourront envoyer leur candidature à la recherchiste Lucie Brunet en donnant nom, âge, endroit où vous vivez et une petite description de vous. Elle pourra vous contacter directement pour une pré-entrevue. brunet.lucie@videotron.ca. Sinon, en appelant au 514-597-5473, 514-597-5473. Et aussi, la Ville de Pincourt a récemment adopté son plan d'action à l'égard des personnes handicapées dans le but de mieux connaître les besoins de ces personnes handicapées et d'élaborer prochainement une planification triennale. La Ville organise une consultation le 5 juin prochain à 17h30. 514-453-8981, 514-453-8981, poste 229 pour plus d'informations ou pour vous inscrire. Voilà, c'est tout pour les paractualités. Merci à tous mes invités de toute la saison. Merci à ma recherchiste précieuse Anne-Laure Janson et aussi à Mathieu Tessier à la technique et Jean-Sébastien Laliberté aussi, ainsi que Maurice Bolduc, ici Hélène Denis. Bon été, à bientôt.